C'est la fiesta dans le Chiapas au Mexique, ce peuple qui, tout comme le peuple guatémaltèque, lutte pour la terre, pour ses droits. Et aujourd'hui, eh bien, nous évoquons le Guatemala, mais nous faisons aussi un clin d'œil au Chiapas. Et cette fête, en l'occurrence, dont vous entendez l'énergie, eh bien, c'est la fête les festivités pour les fêtes de Noël. Il y a, dans une certaine région du Chiapas, des représentants de tous les villages qui se réunissent, feux d'artifice, fiesta, plus de 500 orchestres qui se retrouvent pour faire la fête juste à la veille de Noël. Alors, on vous embarque encore pour quelques secondes dans cette fête à la veille de Noël au Chiapas, avant de retrouver Brigitte Bertuzzo et Suzanne Lersch pour finir un petit peu de parler avec elles de ce qu'elles ont vécu au Guatemala lorsqu'elles sont allées en tant qu'observatrices du processus électoral. Entre autres, elles nous diront quelle fut une de leurs impressions les plus fortes, ce qu'elles gardent de ce voyage plus personnellement. Et c'est bien sûr toujours Remu Ménage et c'est Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Il faut dire qu'au Guatemala, il y a eu un nombre considérable d'organisations de toutes sortes. Du reste, que je trouve admirable quand on connaît la situation qu'ont vécu ces gens de peur et de répression, on trouve quand même un nombre considérable d'organisations de toutes sortes, d'associations, de ceci, de cela. Donc, ça veut dire que c'est un peuple qui n'a jamais renoncé. On lui fermait une porte, ils inventaient peut-être autre chose, ils se regroupaient sous une autre bannière, sous une autre forme, etc. Et puis, bon, là, en une dizaine de jours, on n'a pas pu pénétrer vraiment toute cette richesse. Hein. On a rencontré certaines organisations, mais je pense qu'il y a là tout un monde que nous ne connaissons pas encore. Il y a certainement des grands courants aussi, des différences, des débats. Bon, en fait, c'est comme partout, quoi.
Mais pour rajouter sur les relations entre le front et les femmes, je crois qu'une des quand on a rencontré une personne du front qui nous expliquait un peu ce qu'il faisait et tout ça, et quand il a parlé des erreurs qu'ils avaient faites, la première qu'il a mentionnée, c'est quand même l'erreur qu'ils avaient faite par rapport aux femmes. Mais on n'a pas réussi à savoir plus précisément ce que c'était. Et c'est vrai qu'après, dans les meetings publics, par exemple la clôture de la campagne nationale à Quetzaltenango ou la clôture de la campagne à Guatemala City, il y avait de grandes banderoles sur les femmes et il y en avait une qui disait par exemple « Tu es une femme, pas un objet ». Et c'était signé par les prénoms du candidat à la présidence et à la vice-présidence.
Alors, vous avez, Suzanne, tout à l'heure, tu nous as fait un petit peu le bilan de ce qu'allait être la poursuite au lendemain du travail politique au lendemain de ces élections, que c'était vraiment qu'une étape par rapport à un travail qui doit bien sûr se poursuivre bien plus longtemps. Qu'en est-il des liens que vous allez garder avec ces gens? Parce que bon, maintenant vous êtes rentrés. Est-ce qu'ils comptent, ces associations que vous avez rencontrées, ces mouvements de droits de la personne, comptent que vous gardiez un contact avec eux et une relation d'échange politique? Ou bien est-ce que bon, ça s'arrête là et puis peut-être une autre fois, quelqu'un d'autre retournera?
Non, je crois que comme le groupe Solidarité Guatemala existe depuis quand même assez longtemps et va continuer à exister, donc je pense que ces relations vont continuer par l'intermédiaire de ce groupe Guatemala. Et c'est vrai qu'après avoir partagé tellement d'expériences avec les gens qu'on a rencontrés, en tout cas moi je me sens un petit peu, qu'est-ce qu'il faut dire, pas responsable, mais forcée de faire quelque chose, un peu m'efforcer dans le sens positif. Et bon, on est en discussion maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, comment on continue. Il va y avoir une réunion publique la semaine prochaine, mais à part ça, concrètement, comment on va essayer de continuer à manifester notre solidarité, c'est encore en discussion, disons.
Oui, je pense qu'il y a tout le travail tout simple d'information. Donc les associations qui se préoccupent de l'Amérique centrale se voient. Donc il y a le Salvador, le Nicaragua, maintenant il y a le Chiapas, le Guatemala. Tout ça en fait, ça forme un tout. Je pense qu'il y aurait tout un effort d'analyse à faire à un niveau peut-être un peu plus général, un peu plus global. Cesser de voir ces pays chacun comme une entité particulière, mais d'essayer de comprendre quels sont les phénomènes qui se passent au niveau de l'Amérique centrale et de faire un effort d'analyse et de contre-information là-dessus. Moi, je pense que ça, c'est une tâche importante qui, moi, en tout cas personnellement, m'intéresse. Bon, on va voir avec quel genre de moyens. Et puis moi, personnellement, je compte bien y retourner dans un avenir, j'espère, pas trop lointain, justement pour creuser certains aspects que nous n'avons pas du tout pu creuser dans ce voyage, comme le mouvement des femmes, quelles sont vraiment ces composantes, quels sont vraiment leurs problèmes principaux, leurs revendications, leurs formes d'organisation. Et puis, bon, il y a d'autres aspects qui, moi, m'intéressent, comme tout le problème de l'habitat, parce que c'est mon métier, des choses comme ça. Donc, quel serait le type de projet au niveau peut-être des ONG qui pourrait être proposé, qui pourrait être soutenu de manière plus active. Nous savons que la coopération suisse au développement est très faible au Guatemala. Nous avons rencontré un représentant de l'ambassade suisse qui était quelqu'un de très, très intéressant, qui nous a dressé un tableau très, très vivant de la situation et qui nous a juste dit qu'à son avis, le gouvernement suisse n'investissait pas du tout de manière suffisante dans l'aide au développement au Guatemala. Alors, disait-il, qu'ils engouffrent des millions, notamment au Nicaragua. Alors, selon lui, ils ne servaient à rien. Alors, ça, je trouve que c'est intéressant à creuser, disons, une remarque comme ça, moi, ça me donne envie d'en savoir plus. Hein, parce que effectivement, je pense qu'on peut aussi faire pression sur notre gouvernement pour que l'argent de la coopération soit dépensé à bon escient et dans certains endroits du monde auxquels on pense que c'est important qu'il arrive, même si ces endroits ne sont absolument pas à la mode en ce moment. Donc, ça, on s'est bien aperçu que les élections au Guatemala, c'était 3 jours avant celles de l'Algérie. Elles sont passées quasiment inaperçues à Genève. Mais bon, ça, c'est aussi normal, disons. Je crois qu'on n'a pas à se culpabiliser là-dessus.
Tout à fait personnellement, si j'ose vous demander ça pour terminer, cette expérience, qu'est-ce qu'elle vous a amené comme choc, comme émotion, comme apprentissage? Enfin, est-ce que vous en retirez une expérience individuelle pour vous en dehors de, je sais pas, d'un travail politique? Tout à l'heure, Brigitte, quand tu nous racontais ta visite dans cette plantation de café, on sentait que ça n'avait pas été un moment très simple. Donc, est-ce que comme ça, c'est des choses que vous gardez au retour, où vous aidez, j'ai servi à rien, j'étais servi à quelque chose, enfin, comme c'est très personnellement, peut-être, parce que bon, on fait partie d'un projet politique et puis on est des individus dans l'histoire.
Très personnellement, moi, c'était mon premier voyage en Amérique centrale. Donc, ça a été une expérience très forte. Je suis très contente de l'avoir faite et ça faisait longtemps que j'avais plus voyagé, il faut dire. Donc ça m'a quelque part rempli, j'ai toujours rempli d'humanité, parce que c'est des êtres humains qui sont tellement encore chaleureux et qui ont plein de choses à partager. Donc c'est une telle différence avec ce qu'on peut vivre ici que je suis revenue beaucoup plus solide, j'ai l'impression. Et c'est vrai que j'ai vécu des moments très forts, et je crois chacun d'entre nous a été marqué par une rencontre ou une autre. Je veux dire, le curé là dont je parlais tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionnée, parce que c'était quelqu'un de très fort, mais en même temps on sentait très très fort la peur qu'il avait. Et plein de gens comme ça qu'on a rencontrés, un curé maya, ou enfin un prêtre maya aussi, qui croyait tellement fort au Front démocratique et qui était tellement fier que ce front existe et tout ça. C'est vrai que c'est des moments qu'on n'oublie pas, je pense. Ça reste assez longtemps après.
Donc une autre histoire de Pékin, parce que Brigitte, elle est gonflée, elle dit qu'elle ne voyage pas, mais il y a 3 semaines sur notre antenne, elle nous parlait de Pékin.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est 2 voyages qui ont été l'un après l'autre, mais alors c'est des expériences complètement incomparables. Incomparables parce que Pékin était beaucoup plus... on était 40 000, on était noyés dans la foule, il y a eu des moments aussi très forts, mais cette expérience au Guatemala, c'était beaucoup plus au niveau terre-à-terre, comme ça, un peu, c'est assez difficile à comparer les 2 voyages.
Toi, Suzanne, tu connais, au contraire de ce que vient de nous dire Brigitte, bien l'Amérique centrale, parce que le Nicaragua, tu y as vécu, le Salvador, tu y es allée. Donc, est-ce que le Guatemala, c'était une découverte, ou c'est, comme tu le dis, la conviction que c'est un tout?
Ça m'a renforcée dans la conviction que c'est un tout, mais disons-moi, ce que j'en ai retiré, l'image la plus forte qui me reste, c'est les collines autour de Quetzaltenango qui sont couvertes de cultures, c'est des espèces de jardins suspendus qui sont comme des tapis, hein, de petits champs, un petit champ de choux à côté d'un petit champ de blé, à côté d'un petit champ de fleurs. Et ces collines sont d'une beauté extraordinaire. C'est une beauté de paysage qui peut se comparer à la Toscane, je ne sais pas si tu vois, où tu vois la main de l'homme qui, à travers une agriculture, te produit quelque chose qui est d'une beauté incroyable. Et ça, il n'y a pas au Nicaragua, même si le Nicaragua est un joli pays, il n'y a pas cette beauté qui te prend vraiment aux tripes. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappée au Guatemala, c'est justement toute cette culture, ce peuple qui est vraiment décimé, maltraité depuis 500 ans, qui vit les pires souffrances. Tout ce qui s'échappe de leurs doigts est d'une beauté incroyable. Et s'ils ne peuvent plus produire la beauté sur les terrains plats, ils vont la produire en haut dans la montagne. Ou bien ça se réfugie sur les habits. Hein. Ce n'est plus les habits des hommes, c'est les habits des femmes, c'est les habits des petites filles, c'est les habits des bébés. Je ne sais pas. Il y a vraiment une quête de la beauté, une production de beauté à partir de rien. Hein. Parce que, par exemple, ces collines, elles sont produites, c'est du travail humain, des semences. Et puis, les terres les plus mauvaises qu'on a bien voulu leur laisser cultiver, vu que toutes les bonnes terres ont été prises par les multinationales et tout ça. Et moi, c'est l'image la plus forte que je garde. Et je pense que là, il y a vraiment un trésor de l'humanité. Je pense que si on devait encore dire que là, il y a, je ne sais pas, quelle 8e merveille.
Je ne sais pas comment on a
9e, 10e ou 30e merveille. Je pense que là, il y a un trésor extraordinaire. Hein. Et que vraiment perdre cette chose-là, ce serait une perte incroyable pour tout le monde. Quoi.
En tout cas, merci de nous avoir raconté tout ça. Je crois qu'on entend tout souvent parler de ce genre de démarche et puis on ne sait jamais très bien en quoi ça consiste. Alors, merci de nous avoir fait partager vos expériences. La danse que vous entendez en ce moment, c'est la danse de la Malinche. La Malinche, c'était la maîtresse de Cortés, cette femme indienne d'une tribu très particulière dont il semble qu'elle soit aussi les descendants des Mayas, donc au bord du Pacifique, du Chiapas, donc proche des Guatémaltèques. Et ces gens parlaient une langue très particulière et donc la Malinche a servi de traductrice à Cortés. Et elle a certainement contribué à ce qu'il échappe à diverses embuscades que lui tendaient en fait les Indiens. Alors dans quelques instants, la fin de notre émission, malheureusement, je vous donnerai encore quelques indications de différentes choses que j'aimerais vous transmettre en cette fin d'émission, soit des rendez-vous, soit des appels que nous donnent encore certaines femmes à propos d'autres engagements. Juste vous rappeler donc que cette émission, c'était sur le Guatemala, en compagnie de Suzanne Lerche et Brigitte Bertuzzo. Je les remercie encore 1000 fois de nous avoir fait partager leur voyage et leur engagement aux côtés des divers groupes qui, au Guatemala, se battent aujourd'hui pour la démocratie. Et puis la semaine prochaine, eh bien, nous rencontrons une autre femme qui se bat aussi pour la démocratie par un moyen, celui du cinéma. C'est Nadia Cherabi. C'est une réalisatrice algérienne que j'ai rencontrée lors du festival Black Movie à Genève. Et Nadia Cherabi est par la même occasion engagée parmi les différents réalisateurs et réalisatrices algériennes. Donc elle a aussi une façon de non seulement parler de son propre travail, mais de parler de ce qui se passe soit pour les cinéastes, soit tout court dans la société algérienne aujourd'hui. Un autre regard que celui des femmes avec lesquelles nous avons déjà eu l'occasion de dialoguer dans « On femme ». Et puis nous faire aussi un peu partager quelles sont les préoccupations des cinéastes aujourd'hui en Algérie qui, à vu la situation sécuritaire, se mettent à s'auto-censurer et ça leur pose de sacrés problèmes parce que, évidemment, est-ce qu'ils seront capables d'enlever ce poids de la censure le jour où il n'y aura plus besoin de le faire? Est-ce que ce n'est pas une extrêmement mauvaise habitude qu'ils sont en train de prendre? Ceci, bien évidemment, sans jugement aucun de notre part, mais avec des questionnements. Voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. Et puis j'aimerais vous parler de ce qui se passera encore dans 15 jours, parce que peut-être que vous aurez envie de vous associer à notre émission, notre dernière émission en direct avant les périodes de fin d'année, celle du 20 décembre. Et bien ce jour-là, nous serons réunis ici à beaucoup de femmes, 5, 6, 7, voire peut-être, qui nous réunissons habituellement dans un groupe qui a pour nom femmes, féminisme et politique, qui se réunit pour approfondir un certain nombre de questions concernant le féminisme aujourd'hui. Et alors que nous discutions à bâton rompu, eh bien, l'une d'entre nous nous a proposé de lire un bouquin qui s'appelait « Et pourtant je me retiens ». écrit par Isabelle Alonso. Alors, et pourtant, elle se retient. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, alors que l'on croyait régler la situation des femmes dans nos sociétés libérales, Isabelle Alonso, elle, relance la mode du féminisme avec humour et perspicacité. Je lis ce qui est marqué sur le quatrième de couverture. C'est un féminisme ouvert, sans exclusion, qui repose les vraies questions et cherche la complicité des hommes de bonne volonté. Enfant, Isabelle Alonso voulait être la première femme présidente de la République. Elle visait, semble-t-il, un peu haut. Adolescente, elle voulait libérer toutes les femmes. Elle visait peut-être trop large. Et adulte, elle ne se contente pas d'être devenue une chef d'entreprise heureuse en affaires. Elle revient à ses premiers centres d'intérêt, la politique et la cause des femmes. Alors, il y a à boire et à manger dans son livre, mais nous avons eu envie de le lire ensemble et d'en discuter. Alors, si vous aussi, vous avez envie de vous joindre à notre discussion, eh bien, d'ici au mercredi 20 décembre, lisez « Et encore, je me retiens » d'Isabelle Alonso. Achetez-le, par exemple, à la librairie des femmes, librairie L'Inédite, puisque c'est, entre autres, Evelyne Merlard qui nous a proposé de lire ce livre, Evelyne Merlard, de la librairie des femmes, L'Inédite, à Genève, rue du Cardinal Mermillot. Voilà, ce sera donc nos deux dernières émissions en direct après une petite pause de 2 semaines et nous nous retrouverons au mois de janvier. Encore une chose à vous dire, eh bien, c'est que nous aurons le grand honneur d'aller pouvoir écouter, peut-être de rencontrer en direct, les reines prochaines. Les reines prochaines, ce sont ces 5 femmes baloises qui nous ont prêté quelques notes de leur travail musical pour faire notre indicatif. Eh bien, elles seront à Genève le mercredi 13 et le jeudi 14 décembre à 21h à la cave 12. Boulevard de la Tour, et nous nous empresserons d'aller essayer de les rencontrer et de leur parler, et nous espérons que nous vous y rencontrerons, histoire de leur faire une ovation, et ceci entre autres à l'occasion de la sortie de leur nouveau disque, nouveau CD qui s'appelle Le Cœur en Beurre Double Gras. Et puis cette semaine, vendredi 8 décembre à 22h, une très belle voix, celle de Saadet Turkos, qui est une femme dont les parents sont Ouïghours, c'est une tribu particulière de l'est du Turkestan, actuel Kazakhstan, et qui ont dû émigrer en Turquie, là où Saadet a grandi avant de venir en Suisse. Et c'est donc des chants traditionnels de la Turquie et du Kazakhstan qu'elle interprétera ce soir-là avec beaucoup d'originalité et d'authenticité, parce qu'elle y met peut-être aussi une interprétation très contemporaine. Et sa voix, qui a un timbre assez sombre mais chaleureux, est très pénétrante et vraiment, elle exprime son chant avec toute sa personne. Elle sera accompagnée à la cave 12 de l'improvisateur suisse Jacques Widmer. Voilà, ça c'est pour les rendez-vous. Ah non, j'oublie, une correspondance régulière que nous avons avec les personnes qui travaillent à la pleine lune. C'est pas la même pleine lune que nous, mais c'est la pleine de plein palais, lune, qui travaille avec diverses personnes pour les accueillir dans leur conception de leur restaurant, avec l'association Trajet. Et le jeudi 7 décembre dès 19h, dans le cadre des Nuits de pleine lune, eh bien, elle propose une jazz party gastronomique. On vous offrira un couscous royal, enfin on vous accueillera avec un couscous royal. Et il y aura ce soir-là, en même temps que le repas, l'orchestre Septet Dollar, c'est-à-dire Catherine Hubert au piano, Michel Bélier à la contrebasse, Patrick Duvernon à la batterie, Claude Lacotte au trombone, Jean-Marc Lacotte à la trompette, Alain Montessuie au saxophone et Michel Ribaud à la guitare. Le couscous, c'est 25 francs et il serait mieux de réserver d'ici à lundi, mais c'était lundi 4 décembre, mais vous pouvez peut-être encore le faire. Je vous donne le numéro. C'est donc à Genève, le 329 53 09 et c'est donc pour le jeudi 7 décembre. En face de l'Amérique latine, c'est les Antilles, c'est Haïti et c'est Toto Bicinte. Sole,
un bâtiment moins chavirait le soleil.
Voilà, Remue Ménage, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans quelques instants, ce sont les informels de Radio Pleine Lune. Il fait très froid, mais la lune brille dans nos oreilles. À tout de suite.